Après la pause d'hier liée au conclave, si je puis dire, à l'ouverture du conclave, je reprends le commentaire des lectures courantes. Nous sommes donc toujours dans les Actes des Apôtres, hein, c'est la lecture préférée du temps pascal, si je puis dire. Malheureusement, non commentée en français, ou très 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 rarement. Il y a une espèce de, je sais pas, c'est comme s'il y avait un discrédit sur les actes des apôtres qui sont pourtant inspirés comme les autres livres. Vous trouvez le commentaire de protestant, comment il s'appelle, Édouard Bard, qui a fait un commentaire qu'on peut encore trouver aujourd'hui en PDF ou le faire imprimer en rapide, là, qui donne des informations au moins intéressantes. Au moins, on a quelque chose pour avoir une interprétation, qui n'est pas forcément la seule, hein, mais au moins, il y a un commentaire. Et donc, dans ces actes, dans ce passage, en tout cas, nous avons... ça s'ouvre sur un ange qui parle à Philippe. Aucune surprise de la part de Philippe, aucune... méfiance, c'est l'occasion de dire que le surnaturel est devenu la norme pour les gens qui ont rejoint le message de la résurrection ou qui ont été rejoints par le message de la résurrection, c'est-à-dire que ce message a... déployer ses effets en eux. Alors vous allez peut-être vous dire, moi c'est pas encore le cas. Voilà, tout est dit. Ça n'est pas encore le cas. La résurrection n'a pas encore produit tous ses effets en moi. Eh bien il faut en avoir conscience, se demander ce que ça veut dire et demander au Seigneur que cela advienne. Aussi faut-il que nous soyons fidèles à ce que cela suppose, et très souvent cela suppose, si j'ai bien compris, de laisser un certain nombre de choses, une image de soi-même, une habitude, un usage excessif du contrôle, de la raison. Que sais-je, voilà, tout ce qui fait obstacle à la perméabilité à l'Esprit Saint. Et du reste, on n'est pas surpris, puisque très vite, il est question de l'Esprit dit à Philippe. Approche et rejoins ce char. Alors, il est tout à fait envisageable de penser que Philippe... n'a pas entendu une parole extérieure à lui-même, comme quelqu'un lui aurait adressé la parole, comme l'ange lui a adressé la parole. L'esprit, c'est une personne qui n'a pas de visage. Et voilà. Néanmoins, on peut l'imaginer, en tout cas, assez sérieusement, il a entendu à l'intérieur de lui-même quelque chose qui lui a fait penser qu'il fallait rejoindre le char de l'Éthiopien qui était devant lui. Donc ça suppose une très 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 grande docilité, une habitude d'écouter ce qu'on entend à l'intérieur. Pour nous parfois de nous exclamer « qui parle ?» point d'interrogation, parce que ça peut aussi être un mauvais esprit. Et d'avoir appris à discerner quand c'est l'Esprit Saint et quand c'est louche. Bon, évidemment, quelque chose qui vous pousse à pécher, à juger, à condamner, on trouve la réponse assez vite sur l'origine de l'esprit, avec un petit « e ». En revanche, quand c'est l'Esprit Saint, cela va toucher, ou plutôt l'expérience de la voix de l'Esprit Saint va rencontrer les limites que nous lui fixons à travers la qualité de notre liberté. Donc, la liberté dont je parle, c'est la liberté des enfants de Dieu, qui peut parfois être audacieuse, qui fait marcher sur l'eau, qui nous amène à dire des choses qui nous dépassent parfois, à poser des questions qui nous dépassent parfois, poser tel acte que nous n'aurions pas osé poser, parce que tout le monde va se ficher de nous, à dire une parole, à garder un silence parfois, bref. Donc comme vous le voyez, il y a une grande souplesse spirituelle. Il y a une très grande souplesse spirituelle, et donc une habitude à acquérir de discerner les paroles qui viennent de l'Esprit-Saint en nous. Donc ça s'apprend. Ça s'apprend d'abord au contact des Écritures, ça s'apprend dans l'oraison, ça s'apprend en se trompant. Ouais, on peut se tromper. Alors évidemment, en général, ce n'est pas des choses très très graves, mais voilà, je pensais qu'il fallait que je dise ça, et puis je m'aperçois après que j'ai pas suffisamment tenu compte de la capacité des personnes à recevoir ce que je pensais devoir dire. Je vais prendre deux exemples qui illustrent ce que je veux dire là. L'un des deux, c'est quand Paul dira « Nous voulions nous rejoindre en, je ne sais plus où, en Macédoine, mais l'Esprit nous en empêcha. » C'est curieux, parce qu'ils veulent se joindre, aller quelque part. A priori, c'est quand même que l'Esprit-Saint, ils pensent que ça vient de l'Esprit-Saint, et puis non. Ah, voilà. L'autre exemple, je pense à Joseph et Marie avec l'enfant Jésus. L'ange leur dit tu peux revenir dans ton pays. Et on nous dit Joseph, apprenant que le fils de Hérode, je sais plus quoi, était là, il eut peur et finalement il alla dans un endroit plus retiré. Voilà. Donc vous voyez une grande souplesse, une grande, je crois qu'on peut parler de docilité. Docilité à l'esprit qui parle. Bon, alors évidemment aujourd'hui, j'en profite pour dire que c'est très exactement ce qui doit animer nos cardinaux. Cette grande, grande docilité à l'Esprit-Saint. Parce que l'Esprit, lui, sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, alors que nous, nous jugeons parfois, à juste titre, je vais dire, enfin, je reprends ma phrase, on ne peut pas juger autrement que ce qu'on a vu et connu. On ne peut pas dire, ah ben oui, à moins d'avoir un don de prophétie, mais je sais très bien que cet homme-là va devenir, moi qui ai un don de prophétie, c'est toujours possible, mais c'est l'Esprit-Saint qui fait voir ça, de toute façon. Donc une grande liberté, une grande docilité et par voie de conséquence une grande joie. Et puis donc l'épisode que nous lisons évoque une catéchèse ultra rapide. On est assez loin des 2-3 ans de catéchisme qu'on demande aux gens. Alors on pourrait essayer d'expliquer, de dire bon comment ça se fait quand même, voilà. Il est baptisé alors que... 3 heures avant, il ne savait pas de quoi il parlait, quoi. Donc, c'est quand même assez étonnant. Bon, et voilà. Je ne vois rien à dire à ça. C'est étonnant. Et pourtant, l'Esprit-Saint ne dit pas à Philippe, « Oui, reste-le, prends-le chez toi, qui t'accompagne, dis-lui de venir, tu vas lui apprendre plein de choses. » Non, l'Esprit-Saint lui dit, « Hop, hop !» Il est déplacé, tel Habacuc, avec son repas dans une autre ville. Et il annonce la bonne nouvelle. Voilà. Alors évidemment, on est dans les premiers temps de l'Église, donc il y a une certaine cohérence à ce que les choses soient rapportées avec cette vitesse, cette rapidité. Le Saint-Esprit, parfois, va très très vite. Il s'agit d'être docile. Parfois, il prend du temps, et il s'agit aussi d'être docile. Et j'en viens à l'Évangile, où nous avons une phrase qui pourrait vous bouleverser. Et il est question du Père. Vous voyez, il est question deux fois du Père et une fois de vos pères. Et qu'est-ce que nous apprenons de la bouche de Jésus? Eh bien, nous apprenons cette phrase qui est tout de même assez incroyable. « Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. » Si on prend à l'envers, ça veut dire que quiconque vient à Jésus a donc entendu le Père et reçu son enseignement. Et là, c'est possible que vous ne vous en doutiez pas. Je veux dire par là que si on prend au pied de la lettre ce que Jésus vient de dire, c'est que personne ne vient à lui si le Père ne l'attire. Et le Père attire parce que on entend cette attraction du Père, si je puis dire, une attraction qui fait du bruit, donc, et un enseignement de sa part. Donc, c'est assez bouleversant ce que je suis en train de dire, parce que, enfin, plutôt ce que Jésus a dit, parce que ça signifie que le Père nous a attirés vers Jésus, et que tout ce qui nous attire vers Jésus et nous conduit à Jésus vient initialement d'un mouvement, entre guillemets, d'une invitation de notre Père. Donc, nous découvrons ici, peut-être vous découvrez ici, que notre Père a beaucoup plus de place dans notre vie que nous ne nous en doutions, que nous ne le savions, je dirais même que nous ne l'imaginions, et enfin que nous n'en avions l'expérience. Parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui disent « Oui, oui, moi je suis certain d'avoir entendu cette parole qui vient de Dieu notre Père. » Alors, vous allez me dire « Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Hein. » Donc, c'est pas trois personnes différentes, quoi. Vous voyez. Enfin, si, c'est trois personnes différentes, justement. Mais c'est un seul et même Dieu. Voilà, qui se révèle dans des relations différentes. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un assez grand mystère là-dedans. Tout ce qui nous conduit à Jésus a été initié par quelque chose, quelque chose, c'est très mal parlé ce que je dis, mais a été initié par le Père. Donc c'est intéressant parce que c'est une occasion pour nous de rendre grâce, de découvrir que le Père est extrêmement proche de nous, non pas extérieurement, mais intérieurement. Que Dieu est donc là, que nous avons un Père qui s'occupe de nous depuis toujours. C'est l'occasion justement de dire... faire cette distinction, vous voyez, Jésus dit « Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. » Je vais faire un peu une extrapolation, enfin sortir les choses du contexte, pour permettre la distinction entre le Père et nos pères. Nos pères, nos papas sont limités, mais ils sont morts de fait. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas mangé le pain de vie, hein, et nos pères sont chrétiens, mais vous voyez ce que je veux dire, je joue sur les mots pour faire cette distinction, afin que nous puissions découvrir la paternité de Dieu, qui d'une plénitude qu'aucun être humain n'atteindra jamais, fût-il un père charnel, exceptionnel, sachant aussi que, vous voyez, la maternité, il y a quelque chose d'intuitif dans la maternité, dans la manière de s'occuper d'un enfant. Il n'y a pas d'intuition de la paternité. Comment est-on père ? Voilà. Donc, comment Dieu est père ? Ça peut peut-être éclairer. Ouais. Bon, bref, c'est des choses très difficiles. Hein. Donc, voilà, c'est l'occasion, juste, je voudrais juste noter ça. Noter ça, c'est que la place du Père, de Dieu en tant que Père dans notre vie, qui peut être une place très très douloureuse, précisément parce que nous avons besoin de... de trouver un visage du Père que nous ne connaissons pas et que nous avons systématiquement envie de relier, enfin c'est même pas une envie, réflexe, de relier ce Père aux expériences paternelles néfastes que nous avons pu avoir. Alors toute expérience qui exprime quelque chose de paternel, ça peut être avec un... père, ça peut être une absence de père, ça peut être quelqu'un qui a joué un rôle de père, ça peut être un prêtre, ça peut être... voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent faire que l'image du père est très abîmée en nous, et du coup, elle impacte. Elle peut impacter, en tout cas, notre relation à Dieu en tant que père. Voilà, vous voyez, c'était très... je ramène beaucoup ça à ce qu'on peut en faire aujourd'hui, je pense que c'est intéressant, et en reprenant toujours donc, ce besoin de liberté, de docilité et de joie, précisément, il faut passer par une libération pour prendre cette conscience de la présence du seul Père, Père de Jésus, qui est Dieu. Voilà. Donc, bien prendre la mesure de ces besoins de liberté, de permission, peut-être que nous avons à nous donner, de larmes parfois, pour... parler à Dieu et lui livrer notre cœur sur les choses difficiles que nous pouvons avoir à lui présenter pour que précisément il vienne nous montrer toute sa sollicitude, son action, sa présence.